les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les décharges à ciel ouvert dans les villes du Sud. Elles sont le lieu de travail et d'habitation des plus pauvres d'entre les pauvres et on se souvient en général qu'elles existent et vers où partent les déchets quand survient un éboulement tragique avec des morts. Certes, les villes du Sud ne sont pas celles qui produisent le plus de déchets. Un habitant d'une ville indienne ne jette en moyenne que 300 à 400 grammes de déchets par jour, contre 2 kilos par jour pour un habitant aux États-Unis ou 1 kilo par jour pour un habitant européen. Mais ces villes du Sud posent le casse-tête des décharges à ciel ouvert, dont le tri informel sur les tas d'ordures fait vivre des milliers de personnes. Appelez-nous, les voisins, pour nous parler de la situation chez vous. Faut-il fermer ces décharges, les rénover? Que font les autorités locales dans vos villes? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et dans le studio pour discuter avec vous, Clémentine Dardy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste en charge des sujets de planification urbaine, gestion des déchets donc forcément et réhabilitation des quartiers à l'Agence française de développement, l'AFD. Baptiste Mont-Saint-Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes socio-anthropologue, chercheur à l'IFRIS et vous publiez Homo Detritus. Évidemment, vous nous interrogez sur le nouveau mythe du jeté propre des nouveaux citadins en quête d'idéal dont nous faisons tous partie, bien évidemment. Et puis nous serons également en ligne en Inde avec notre correspondant Sébastien Farcy. Il nous dira quels sont les débuts de solutions, notamment pour l'immense décharge de Bombay sur plus de 130 hectares. Et chez vous, les voisins, on attend vos appels 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages. Moustapha qui poste de Bamako sur Facebook. Les décharges existent dans toutes les villes pauvres d'Afrique. Elles sont extrêmement dangereuses. Il faut trouver des solutions. Mais les ONG qui y travaillent manquent malheureusement de moyens. Est-ce vraiment le rôle des ONG? Ça aussi, nous poserons la question. Ange Bourra à Dakar nous dit qu'il faut des normes environnementales strictes pour que les décharges ne menacent pas la santé, les sols, l'eau des nappes phréatiques. L'enfouissement des déchets pourrait aussi être une solution alternative. Ami à Conakry nous dit « Toute notre capitale guinéenne est une décharge à ciel ouvert. Ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a ni éducation, ni action politique de l'État pour lutter contre ces décharges et ces déchets. »
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Ouais, tout le monde est voisin, mais on n'a pas tous les mêmes ordures, hein, quand même, il faut en convenir. Et on est en ligne avec Fatoumata Chérif, blogueuse guinéenne, connue pour ses selfies devant les décharges et postée sur les réseaux sociaux avec le hashtag, vous pouvez les consulter tout de suite, les voisins, hashtag selfie déchets, notamment sur Twitter. Bonjour Fatoumata Chérif.
Bonjour et bonjour aux milliards de voisins et de voisines à travers le monde.
Fatoumata Chérif, vous entendiez le commentaire d'Ami, un de vos voisins à Conakry, qui nous disait que toute notre capitale est une décharge à ciel ouvert. Vous partagez ce constat à travers vos photos postées sur les réseaux sociaux?
Je crois qu'il n'a pas tort parce que les décharges sont retrouvées un peu partout dans la rue. Et je pense que ce commentaire-là est parti d'un bon sens.
Alors vous, votre truc pour lutter à votre façon contre cette absence de politique publique pour gérer les déchets à Conakry, c'est de poster des photos de tas d'ordures et de décharges. Hein. Certains postent les photos de leurs vacances. Vous, c'est des tas d'ordures. Et vous faites cela depuis des mois.
Oui, c'est ça, depuis 6 mois. Alors, il ne faut pas se leurrer, c'est vrai. Notre capitale aujourd'hui est entourée de tas d'immondices. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas publier de photos aujourd'hui sans voir de déchets. Même des photos de mariage ou des photos événementielles, il y a toujours un déchet qui traîne à côté. Alors, sur cette base, je me suis dit que là, il fallait lancer l'alerte contre les ordures à Conakry, parce que les citoyens étaient devenus vraiment des voisins à ces décharges, à ces tas d'immondices. Et la question de lutte contre l'insalubrité n'était pas vraiment au centre de la gouvernance.
Mmh. Mais il y a bien un plan d'assainissement de la ville qui est en cours, non?
Bon, il y a plusieurs plans depuis plusieurs années qui ont été lancés et tout, mais qui n'aboutissent pas vraiment parce qu'il y a une question de volonté politique, mais surtout, il y a un manque de logistique. Donc, du coup, toutes les campagnes d'assainissement qui commençaient n'étaient pas suivies. Parce que Conakry a un grand problème, nous n'avons pas de décharge, nous n'avons pas d'unité de transformation de déchets.
C'est-à-dire qu'il y a une seule grande décharge à Conakry, hein, c'est bien cela.
Et elle est sauvage, et elle est sauvage. On n'a pas du tout d'unité de transformation des déchets. Donc, ce qui ralentit toutes les politiques qui sont mises en œuvre pour lutter contre les salubrités dans la capitale.
Donc, il n'y a pas d'unité de traitement, il n'y a pas d'unité de recyclage, donc on élimine en brûlant.
En brûlant, oui, en brûlant, c'est ça. Donc, les populations maintenant brûlent leurs propres déchets. C'est ça, parce que de toute façon, même si elles sont collectées par les unités de collecte de transport, elles seront de toute façon brûlées à la décharge. Donc, pour éviter les moustiques, les odeurs nauséabondes, les citoyens s'en débarrassent soit dans les caniveaux, soit dans les bordures de mer ou tout simplement dans les carrefours. Et les plus malins les brûlent carrément derrière la maison.
Parce qu'il y a peu de ramassage des déchets également dans les quartiers d'habitation.
C'est ça. Donc, on est confronté à une question de logistique. Les camions dont dispose l'unité de transport des déchets ne suffisent pas pour toute la ville. Et il y a aussi la question d'urbanisation. La plupart des quartiers sont enclavés. Et donc, ces camions ne peuvent pas vraiment rentrer dans les ménages.
Est-ce que quelque chose est en train de changer dans les mentalités des habitants, des citoyens?
Au niveau des habitants, c'est vrai, tout le monde crie au ras-le-bol des déchets, mais c'est difficile. C'est difficile de changer cette mentalité du citoyen qui se débarrasse des ordures en les jetant. Il y a tout un réflexe.
Mais en même temps, que peut faire d'autre le citoyen?
Oui, le citoyen lui-même doit se remettre en cause en se disant qu'une ordure retrouvée dans la rue est d'abord sa responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est d'abord en gérant ses propres déchets, en faisant l'effort de trier ses propres déchets pour que la quantité de déchets rejetés dans la nature soit moindre. Donc, lorsque chaque citoyen gère ses propres déchets, je pense que nous ne verrons pas cet état du monde pleurer un peu partout dans la capitale parce qu'on a l'impression que les déchets remplacent les
Mais vous-même, Fatoumata Chérif, qu'est-ce que vous faites pour limiter vos déchets, par exemple, à Conakry?
Alors, moi-même, déjà, au cours de la journée, je limite la consommation des produits polluants. Et lorsque j'en ai, je les garde vraiment dans mon sac et tout. Et à domicile, je fais en sorte...
Mais à terme, votre sac, il explose, non? Attendez.
le temps de rentrer à la maison et de trier tout ça. Et j'emballe ces déchets comme les bouteilles, les sachets plastiques, les papiers. Et je les sépare parce que je me dis qu'une fois que ça se retrouve dans la décharge, au moins, ça servira à ce jeune qui vient trier ses poubelles. Il trouvera déjà des déchets déjà triés et propres.
Oui, les chiffonniers qui vivent de ce tri informel. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Fatoumata Chérif. Et j'invite évidemment les internautes à aller voir vos selfies. Hashtag selfie déchets. Lamine nous appelle également de Conakry. Il semblerait que, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté nous sur nos réseaux sociaux. Il y a un vrai ras-le-bol des habitants de Conakry qui prennent tout d'un coup conscience que ces tas d'ordures ont passé la limite du supportable. Bonjour Lamine.
Bonjour, Emmanuel.
Je crois que vous militez pour une ONG, c'est bien cela?
Oui, je suis à la tête d'Action 21, une ONG qui milite pour la protection de l'environnement dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Alors,
quelle
est la solution pour vous pour limiter cette immense décharge sauvage à ciel ouvert à Conakry?
Il y a plusieurs décharges à Conakry, mais il y a quand même une qui attire l'attention, c'est le dépotoir de Conakry ou la décharge de la minière. Donc, avant de vous proposer une solution, j'aimerais vous dire que nous avions posé des actes pour le transfert, la fermeture et le transfert de cette décharge. Nous avions écrit au gouvernorat, au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, et même à la primature, pour fermer cette décharge, parce que nous sommes asphyxiés avec cette fumée noirâtre. Qui s'élève par-dessus les 30 000 riverains. Donc rien n'a été fait, c'est le silence total. Et donc pour l'instant, à part ces courriers, nous avions lancé une pétition qui est actuellement en cours. Nous allons recueillir plusieurs centaines de signatures et nous irons la déposer à la présidence de la République. Pourquoi? Parce que c'est le président lui-même, d'après le gouverneur, qui a ordonné à ce que cette décharge reste encore sur place jusqu'en 2020. Donc la pétition est en cours, les gens sont en train de signer. Et si rien n'est fait aussi, nous serons dans l'obligation d'engager une action judiciaire.
Merci beaucoup Lamine de nous avoir appelé. Clémentine Dardy, alors on voit bien que la question qui se pose aujourd'hui dans ce ras-le-bol exprimé par les habitants, c'est de réclamer dans un premier temps la fermeture de ces décharges. Si on reprend le cas d'Abidjan qui bien sûr est moins dramatique, mais le gouvernement ivoirien a promis la fermeture prochaine de la décharge d'Akouedo qui est la plus grande du pays. Est-ce que la solution passe d'abord par la fermeture de ces décharges ou pas, et pour faire quoi?
Alors peut-être avant tout, effectivement, rappeler les enjeux, de quoi on parle en fait. On parle de 100 tonnes par seconde dans le monde qui sont générées, et la moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès en fait à un service de traitement des déchets. Si on regarde les chiffres, entre 2012 et 2015, donc en 4 ans, les déchets ont doublé. Donc aujourd'hui, il y a déjà une nécessité de prendre conscience du problème. Et effectivement, l'AFD, mais tous les acteurs, nous citoyens, les ONG, doivent porter ces messages de prise de conscience déjà de quoi on parle, des quantités générées. Et puis clairement, ça veut dire quoi ? Avant tout, il y a la question du portage politique. Et effectivement, les autorités publiques ont un rôle à jouer. Après, on parlera des solutions. Hein. La fermeture, c'est une chose.
Oui, ça ne peut être que les autorités publiques qui décident la fermeture d'une décharge.
Complètement. La prérogative municipale par excellence, c'est la gestion des déchets solides. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est souvent, dans les politiques publiques, le parent pauvre. Un déchet, c'est toujours facile de s'en débarrasser. Moi, je peux me débarrasser facilement de mes déchets. Et donc, du coup, tout le monde fait l'autruche. C'est un peu un jeu de dupes, d'une certaine manière, dans un milieu qui est souvent assez opaque, voire mafieux. Le contexte aussi, c'est souvent un manque de ressources financières, en termes de ressources humaines également, des ressources techniques, et par-dessus le marché, un manque de vision, voire d'audace aujourd'hui.
On voit peu de politiques qui font des campagnes sur la promesse de gérer les déchets, les ordures. Hein.
Voilà, c'est pas forcément très vendeur. Vaut mieux parler d'accès à l'eau.
De construire des routes et des écoles, parce que ça se voit tout de suite.
Ouais. Des routes dans des échanges électoraux, effectivement.
Baptiste Mont-Saint-Jean, votre essai Homo Detritus démarre par un périple sur l'Atlantique à bord d'un voilier où vous étiez. Vous découvrez que la première décharge à ciel ouvert, c'est la mer, et que les ordures sont précisément ce que vous nous disiez, Clémentine Dardy, une patate chaude qu'on se repasse finalement de main en main, et comme ces habitants des îles qui reprennent les poubelles des navigateurs pour les déverser sur des plages.
Alors oui, ensuite les décharges ou à ciel ouvert qu'on trouve dans les océans sont pas réellement des décharges, on va dire que ce sont des agglomérations de débris plastiques, de polymères de synthèse qui s'agglomèrent et qui se dispersent sous la forme de microparticules. Et accuser les insulaires d'être à l'origine de cette pollution, ce serait un peu facile. C'est en fait le monde dans son ensemble qui est responsable de la pollution. Alors là, il faudrait faire des distinctions fines sur les sources de ces pollutions, de ces flux de déchets qui finissent dans les mers. Mais je crois qu'effectivement, on est tous concernés à toutes les échelles, et que l'échelle importante à débattre et à discuter, c'est, je pense, l'échelle municipale, effectivement, puisque l'échelle individuelle est souvent insuffisante pour régler ces enjeux qui mettent en question des affaires de pouvoir, des rapports de force. Et l'échelle globale me semble trop grande et se résume souvent à des promesses ou à des bonnes intentions.
Mais alors, où est-ce qu'on en est dans la façon de voir le problème des décharges publiques, selon vous ?
La question des déchets, elle s'est problématisée dans les Nord, en tous les cas, comme un enjeu écologique autour des années 70, sans jamais réellement poser la question des sources, c'est-à-dire des chaînes de production, des systèmes de production, des systèmes économiques qui sont à l'origine de la génération, de la production de ces quantités gigantesques de déchets. Traiter le problème en bout de chaîne, c'est-à-dire au bout du pipeline, comme certains le diraient, c'est d'une certaine façon, là encore, faire de la politique de l'autruche. Tout le problème avec les déchets, c'est que prendre au sérieux cette question-là implique de poser la question des systèmes économiques, des systèmes de production. Et ça, c'est une affaire qui est largement débattue et largement à débattre, j'ai envie de dire.
Oui, c'est le problème de l'eau que nous sommes en train de voir dans ce gobelet en plastique, qui d'ailleurs ne sera probablement pas recyclé parce qu'il ne partira pas dans un tri à part, et pourtant on est bien à Paris. Clémentine Dardy, néanmoins aujourd'hui, alors bien sûr on peut remonter la chaîne sur la production industrielle et on va le faire pendant cette émission, mais il faut quand même poser le problème tel qu'il existe dans les décharges des pays du Sud à l'heure actuelle, qui sont évidemment polluantes, qui sont dangereuses, qui font vivre beaucoup de monde. On a eu plus de 65 morts en Éthiopie dans la fameuse décharge de Koché, qui d'ailleurs signifie saleté en argot amharique. C'est une décharge énorme qui se situe en périphérie d'Addis Abeba. Il y avait des travaux en cours, notamment de construction d'une centrale de biogaz. Je crois que l'AFD était plus ou moins partenaire de ces travaux, me semble-t-il. Non ? Donc vous participez à des élaborations de programmes, ce qui n'a pas empêché l'écroulement, parce que les bulldozers, quand il y a des travaux, on avait beau prévenir les habitants sur la décharge, ils sont restés. Donc voilà, ça pose bien toute la difficulté de travailler à rénover ou à transformer ces décharges.
Alors tout d'abord, effectivement, il y a eu, on parle vraiment d'un drame sans précédent, il y a quand même 113 morts, et il faut vraiment avoir une pensée aujourd'hui pour toutes les familles. Koché répit, effectivement, l'AFD a accompagné il y a 5 ans la première phase de fermeture et de stabilisation pour limiter la pollution de cette vieille décharge arrivée à saturation.
Qui a plus de 40 ans d'âge.
Effectivement. Et puis, dans un second temps, aujourd'hui, accompagné à 30 km de là, le financement d'un centre de traitement des déchets, d'un centre d'enfouissement à Sendafa, qui soit justement aux normes environnementales et sociales. Et puis surtout, j'ai envie de dire que l'enjeu clé, c'est aussi le plan d'accompagnement social pour les chiffonniers qui vivaient de cette décharge, et avec les habitants, parce qu'il y a des habitats précaires qui se sont structurés, organisés autour de cette décharge. Et j'ai envie de dire que cet exemple tragique met en lumière la dimension éminemment sociale et culturelle de la thématique des déchets, parce que c'est un peu technique, c'est fortement socio-économique, mais c'est surtout éminemment social.
Qu'est-ce que ça a de très technique, une décharge ?
Alors dans le gradient des solutions techniques proposables, c'est pas le plus complexe. Ce qui est l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir limiter les risques. On entendait tout à l'heure la pollution aux alentours pour les riverains. Par exemple, quand je pense à Lomé que je connais bien pour y avoir vécu, la décharge était en dehors de la ville. Puis la ville, on connaît hein, les croissances galopantes. On pense à Lagos, c'est une ville comme Toulouse ou Nantes chaque année qui vient grossir. Donc la décharge s'est retrouvée entourée par des habitats et les gens sont venus s'installer et ont commencé à faire des forages pour récupérer l'eau. L'eau qui était polluée par les lixivias, enfin par les rejets liquides toxiques des décharges. Donc l'enjeu, c'est effectivement pour un centre d'enfouissement technique de pouvoir respecter, protéger les habitants, protéger les déchets pour qu'ils ne soient pas dangereux, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que ces décharges à ciel ouvert reçoivent toutes sortes de déchets, des déchets électroniques, des déchets hospitaliers qui viennent se mélanger aux déchets des ménages, aux déchets, enfin aux détritus, au papier, aux épluchures. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir séparer et gérer sur des sites.
Séparer, enfouir, c'est ça ?
Alors, non, le véritable enjeu, il n'est pas là. On est d'accord, c'est un pis-aller. C'est-à-dire qu'en clair, il y a quand même une réalité, il faut gérer des flux. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'effectuer, et puis on en parlait, Baptiste Mont-Saint-Jean en parlait, c'est vraiment d'effectuer une véritable révolution copernicienne dans les mentalités.
À partir du robinet, donc, qui fournit les ordures, c'est ça, finalement.
C'est surtout repenser. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit
bien
pas.
Bien sûr. Alors, on va en reparler. Responsabiliser les habitants, mettre les politiques publiques face à leurs responsabilités. Comment résoudre le casse-tête des décharges à ciel ouvert, peut-être en s'interrogeant, en effet, comme vous le faites, Baptiste Mont-Saint-Jean, sur le fameux robinet d'où partent les ordures. 7 milliards de voisins, nous revenons dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant, juste après le flash sur RFI.
<t'->
7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous parlons des décharges à ciel ouvert dans les villes du Sud. Avec vous, Clémentine Dardy, vous êtes urbaniste à l'Agence française de développement. Baptiste Mont-Saint-Jean, vous êtes socio-anthropologue, chercheur à l'IFRIS et vous publiez Homo Detritus. Et effectivement, on se sent tous bien coupables quand on vous lit. Vous nous interrogez sur le nouveau mythe du jeté propre et des nouveaux citadins en quête d'idéal. Et vous démontez bien ce mécanisme et ce mythe de la pureté finalement dans les villes modernes du Nord où on ne veut plus voir les déchets, où bien sûr ils ne sont plus à portée de vue, mais bien sûr ils existent aussi même si on organise du tri sélectif. Alors l'Inde fait également face à un énorme problème de traitement de ses déchets, vous vous en doutez. Les villes indiennes rejettent 60 millions de tonnes par an et l'essentiel termine dans des décharges à ciel ouvert. Alors ce qu'il faut dire sauvage ou pas sauvage, d'ailleurs là aussi c'est compliqué, ce qui cause d'importants problèmes environnementaux, sanitaires. Nous sommes en ligne avec notre correspondant. Bonjour Sébastien Farcy.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Les grandes villes croulent donc sous le poids de ces déchets en Inde.
Oui, tout à fait. L'un des meilleurs exemples, ou des pires on peut dire, est la mégalopole de Bombay, qui est l'une des deux plus peuplées du pays, avec environ 20 millions d'habitants. Elle génère plus de 3 millions de tonnes de déchets par an, mais cette ville est en fait très mal équipée pour faire face à ce flot. Il n'y a quasiment pas de système public de tri sélectif, ce qui fait que presque tout est jeté dans une même poubelle et qu'il revient ensuite aux travailleurs informels issus des bidonvilles d'aller à la pêche du plastique ou de tout matériel recyclable. Ces déchets finissent dans deux décharges en plein air, situées très proches de la ville, dont la principale, celle de Deonar, est la plus grande et la plus ancienne du pays. Elle s'étend sur 132 hectares, Emmanuel, avec une hauteur équivalente à un bâtiment de 32 étages. Les feux sauvages y sont réguliers et à ses alentours, l'air est extrêmement toxique. Les problèmes respiratoires sont la première cause de décès et la mortalité infantile y est deux fois plus élevée que dans le reste du pays. La municipalité de Bombay est censée fermer cette décharge en juin prochain, au bout de 100 ans d'existence, mais elle n'a toujours pas trouvé de site de remplacement.
Et ben voilà, on se heurte toujours à la même question, fermé, mais pour en faire quoi? Alors, face à ce manque d'action, ce sont les habitants qui se sont mobilisés pour mieux gérer ce problème de déchets, Sébastien?
Oui, tout à fait, Emmanuel. Plusieurs petites entreprises sociales sont nées avec le désir de réduire ce chaos environnemental. L'une d'entre elles, qui s'appelle Sapun Earth, a été créée il y a 5 ans et offre toute une gamme de services pour le recyclage. Cela commence bien sûr par l'organisation du compost des déchets organiques. Ils ont même construit une dizaine de petites usines qui récupèrent et incinèrent le méthane produit par ces déchets, un gaz qui est ensuite utilisé par les cuisines de ces bâtiments, principalement des cantines, qui génèrent, elles, plus de 400 kilos de déchets organiques par jour. Et cela permet à ces institutions, bien sûr, de réduire leur facture de gaz. Le directeur de cette société sociale m'affirme que cette économie en gaz est remboursée en 4 ans environ, le prix de la construction de cette petite usine qui est d'environ 21 000 euros par pièce.
Et que font-ils pour le recyclage des autres déchets, le plastique, le papier, le verre?
Oui, c'est en effet un peu plus difficile à traiter que Manuel, car pour les récupérer, il faut d'abord inciter les utilisateurs à trier ces déchets, ce qui est peu pratiqué en Inde. Cette entreprise a donc dû réaliser des missions d'éducation avant tout pour convaincre les particuliers ou les entreprises à trier. Aujourd'hui, Sapun Earth travaille avec environ 70 clients, principalement des institutions ou des sociétés privées avec qui ce procédé est plus facile à instaurer. Un point important, cette entreprise a engagé des dizaines d'anciens éboueurs informels pour le ramassage. Au lieu de les remplacer ou de leur prendre leur travail par leur mission, elle rachète également les déchets récoltés par les autres recycleurs de rue qui circulent dans la ville pour récupérer par exemple les bouteilles en plastique, des déchets qu'elle dit payer à un meilleur tarif que sur le marché informel, car la société peut réduire le nombre d'intermédiaires et ainsi les revendre directement aux usines de recyclage. Cette entreprise, Sapun Earth, récupère tout ce qui est réutilisable, même les produits électroniques. Elle estime que si le tri sélectif est bien pratiqué, on peut recycler jusqu'à 80% des déchets en Inde. En 5 ans, elle a multiplié par 8 la quantité de déchets qu'elle a récoltés, qui s'est élevée à 1500 tonnes l'année dernière. Alors cela représente 2000 fois moins que ce qui est rejeté à Bombay, mais constitue déjà un effort encourageant qui pourra en plus bientôt payer. Tap on Earth espère réaliser ses premiers profits cette année.
Merci beaucoup Sébastien Farcy, vous êtes en direct de New Delhi. Clémentine Dardy, alors est-ce que c'est la solution? Comment vous voyez à l'Agence française de développement cette articulation entre le tri informel à même d'ailleurs les décharges à ciel ouvert sur les tas d'ordures tel qu'il est pratiqué dans bon nombre de décharges dans des villes africaines et pas seulement, hein. C'est le business des chiffonniers, et puis un nouveau type de tri formel.
Bah aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est effectivement de sortir de cette opposition et de voir comment tous ces acteurs, formels et informels, parce que selon les contextes, on peut avoir un secteur informel très actif et d'ailleurs même plus organisé que le secteur formel, et qui peut, donc les mairies peuvent tout à fait avoir intérêt à travailler avec les informels, et les informels peuvent aussi avoir un intérêt à travailler avec les autorités publiques, parce qu'ils vont pouvoir être plus outillés, financés, accompagnés.
Si tant est qu'on sécurise un peu leurs conditions de travail, évidemment.
De fait, ensuite, moi, je soulignerais même que le secteur informel a parfois des moyens techniques qui sont très simples. Le fait de pouvoir déambuler à pied dans les rues pour récupérer au porte-à-porte les quantités de déchets, des solutions techniques que l'industrie ou que les grandes solutions mécanisées, les camions poubelles, ne peuvent pas passer dans certaines
rues. Là, vous parlez du tri informel à la source.
À la source,
c'est-à-dire chez
la collecte,
les habitants.
À la collecte.
Où là, il y a moins de problèmes de conditions de travail, bien évidemment.
Oh, il y en a aussi. Il y en a aussi, bien évidemment. C'est souvent des situations précaires. Si on pense à la situation des chiffonniers fin du 19e siècle en Europe, la situation n'est vraiment pas enviable. Toutefois, on peut considérer que ces acteurs-là ont une vraie fonction positive pour le tissu social et pour la gestion même des déchets.
Alors justement, cette articulation entre l'informel et le formel, il passe par une responsabilité des habitants ou par le rôle des politiques publiques ?
Eh bien, les deux, en fait. Effectivement, il y a... par exemple, je vais vous parler du projet Lomé. Bon, Lomé la belle, c'était devenu Lomé la poubelle. Et alors, c'était comment, depuis 2007, comment travailler à réorganiser le service. Les autorités sont venues nous solliciter. Et en fait, ça fait donc 10 ans aujourd'hui, parce que c'est un pas, il faut le dire quand même, c'est que pour changer les choses, il faut s'inscrire dans la durée. Et 10 ans, c'est un minimum pour voir évoluer les pratiques, les techniques. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'est-ce qu'on a fait. Il y a bien sûr besoin de gérer l'urgence, les flux de déchets qui arrivent, qui se déversent, qu'on retrouve dans les rues, comme Fatoumata Chérif l'illustre à travers ses photos. Alors, donc, il faut gérer ces flux. Donc, effectivement, ça passe parfois par de l'enfouissement. Mais l'enjeu, il est là encore éminemment social. Toute la structuration des ramasseurs de déchets en porte-à-porte qui viennent rapporter leurs déchets dans des petits points de regroupement au cœur des villes pour ensuite partir en collecte et en stockage, en règle générale, à l'extérieur des villes. Donc on voit bien qu'il y a une filière qui s'organise autour d'un territoire. Donc ça passe aussi par ça, mais concrètement, c'est de la formation de ces petits opérateurs à la gestion, à la comptabilité, des équipements, de la mécanisation pour qu'ils soient plus performants dans leur quotidien, et puis qu'il y ait un lien qui s'établisse avec les pouvoirs publics où eux aussi peuvent en vivre et être rémunérés dignement et régulièrement.
Oui, mais en dehors des déchets qui ne sont pas recyclables, qui ne font pas l'objet d'un traitement par des chiffonniers informels ou des travailleurs formels, ils subissent existe bien un tas énorme d'ordures sur ces décharges à ciel ouvert. Qu'est-ce qu'on en fait dans ces villes-là ? Quelles sont les solutions ?
Je pense que ce qui a été souligné tout à l'heure, c'est que l'enjeu, par votre correspondant en Inde, l'enjeu premier, c'est le déchet organique. Et que le déchet organique, il peut se gérer dès l'espace du foyer. On peut le gérer aussi à l'échelle du quartier. Ce qui est assez intéressant, c'est de considérer que dans les Nord, cette question de la gestion collective du déchet organique, elle a été pensée très tardivement. Par rapport à des quantités et des productions détritiques qui, elles, avaient une valeur économique plus importante. Sachant que le cœur de l'économie du déchet avant le tournant moderniste, c'était précisément cette économie synergique entre les villes et les campagnes de la gestion de l'organique au sein même des villes et en périphérie immédiate. Et donc l'apparition d'engrais chimiques, notamment, a favorisé l'abandon de ces pratiques-là. Mais je pense que ce
Pourquoi retour... De quelle manière ?
Oh bah, tout simplement parce qu'il était plus hygiénique, a priori, et moins polluant d'utiliser des engrais chimiques, et moins coûteux aussi.
Puis des lobbying derrière, hein, toujours.
Donc du coup, on s'est mis à jeter effectivement ce qu'on appelle les déchets organiques, hein, c'est-à-dire les déchets alimentaires, les épluchures, etc.
On les a achetés et c'est surtout qu'on leur a empêché, en les isolant du monde, on les a empêchés de revenir à la Terre. Ouais. Puisque le principe du déchet organique, c'est qu'ils rentrent dans ces cycles du vivant et que si on les exclut de ce cycle du vivant, alors on crée une sorte de carence pour les sols et on déséquilibre un métabolisme urbain qui tient peu de choses.
Vous racontez bien dans votre livre, hein, avant la révolution industrielle, en Europe, en France, fin du 19e, on jetait quand même beaucoup partout.
Oui, le fait de jeter existait.
Vous parlez de ville de boue, d'ailleurs.
C'est une image un peu canonique de la ville médiévale, la ville de boue.
Mais qui a perduré très longtemps.
Qui a perduré très longtemps. Disons que le modèle traditionnel de la gestion urbaine ressemble plutôt à une ville envahie de déchets. Toutefois, est-ce qu'on peut vraiment parler de déchets à l'époque? Non, pas vraiment, puisque de ces déchets-là, on ne les abandonne jamais vraiment. Ils sont toujours en circulation, récupérés par les paysans au sein même des villes. Ces déchets n'en sont pas, en quelque sorte. Et c'est l'inflation démographique, c'est d'une certaine façon l'arrivée de nouveaux matériaux aussi, et les plastiques, les polymères en premier lieu, qui ont perturbé très largement cette synergie, alors qu'il ne faut pas non plus idéaliser, hein, mais une synergie réelle malgré tout entre ville et campagne.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle des décharges à ciel ouvert aujourd'hui. Faut-il les fermer? Pour en faire quoi ensuite de ces déchets? Nous donnons la parole à Babacar qui nous appelle de Dakar. Bonjour Babacar.
Bonjour Emmanuel. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
En fait, je voulais parler de la décharge de Bebes dans la banlieue de Dakar.
Oui.
Ouais. Donc, en fait, on remarque à Dakar que les banlieues sont un peu moins propres que la ville. Donc, plus on s'éloigne du centre-ville en allant vers la banlieue, vers les périphéries, plus on remarque qu'il y a un problème de gestion des déchets.
Comme c'est curieux.
Ouais. Donc, à Bebes, il y a des problèmes par rapport à la santé de la population, des gens qui y vivent, des problèmes aussi par rapport à l'environnement. Donc, je crois qu'il y a, globalement, il y a dysfonctionnement au niveau de la gestion des ordures.
Alors, cette décharge à Dakar, elle a fait l'objet de nombreuses études, hein, je crois. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Babacar, Baptiste Mont-Saint-Jean. Ça fait longtemps qu'on s'interroge sur la gestion des déchets à Dakar et que faire de cette gigantesque décharge.
Ça fait des années. Alors, moi, à Mbebes, j'y suis allé dans le cadre de ce voyage transatlantique autour des déchets et autour de ce continent de plastique. En m'arrêtant à Dakar, j'ai rencontré notamment une association qui s'appelle Sigil Anne et qui s'occupe de la question de la pollution dans la baie de Han, et qui m'a dit il y a cette question aussi du déchet solide à Dakar qui est concentrée comme ça effectivement en banlieue immédiate de l'agglomération de Dakar. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement d'élimination, étymologiquement éliminer, ça veut dire mettre au seuil. Et on le retrouve à peu près partout dans l'histoire du déchet. C'est précisément ce mouvement du centre vers l'extérieur et que l'extérieur finalement se retrouve au centre et qu'on passe notre temps finalement à mettre toujours plus loin ce qu'on n'a pas envie de retrouver là où on habite. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Non, je pense qu'il faut là encore interroger les processus qui sont à l'origine de ces mouvements-là. Et pour le cas de Dakar, ce que je crois intéressant de mettre en lien, c'est à la fois cette question effectivement inquiétante, problématique de la décharge de Mbebes, mais également le fait que l'industrie sénégalaise se concentre pour une grande partie autour de cette baie de Han et qui participe très directement à une autre forme de décharge à ciel ouvert, c'est cette baie qui est littéralement polluée, insalubre, et à des échelles de pollution qui sont absolument délirantes.
Alors, quelle solution? Nous allons en discuter, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience des nouvelles générations, à la faveur d'Internet aussi, où on poste sa façon de se scandaliser avec des photos, et les gens ont envie de dire stop. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. You could be mad at me. Tell me I was born to quit. I was checking gold. Or you could just freak with me. Set it again. Let the numbers roll. I hear that about you, baby. It's back when the city's cold. Oh.
dream like that. It's just in the daylight. No, it's just in the daylight. No.
I was checking gold. You should just freak with me,
freak with me,
and let the numbers roll. I'm made by the fire, I'm waiting back where the city's cold. Don't ever look at me like that. It's just in the days I've known. It's just in the days I've known.
C'est Gorillaz chez 7 milliards de voisins. Nous parlons des déchets, surtout de ces décharges à ciel ouvert. Nous recueillons vos réactions, bien sûr, d'auditeurs, de citadins dans les villes du Sud. Baptiste Mont-Saint-Jean, vous dénoncez aujourd'hui dans votre livre Homo Detritus, dans les villes riches en tout cas, un nouveau mythe du bien jeté plutôt que de bien produire. Parce que d'ailleurs, si on jette bien, eh bien, ça sera plus facile de continuer à consommer. Finalement, vous souhaitez incriminer qui ?
Je ne suis pas là dans une position ni de culpabilisation des jeteurs dont je fais partie,
oui,
ni d'accusation de la mauvaise industrie, etc. Ce que j'essaie de raconter ou de souligner, c'est la façon dont un pan de l'industrie et du développement économique s'est fondé sur l'argument écologique pour se développer. En l'occurrence, l'industrie du déchet, autour des années 70, quand le déchet devient un problème collectif, un problème public, un secteur industriel entier vient proposer aux collectivités des solutions clés en main pour résoudre le problème des déchets. Voilà, vous avez des problèmes.
On venait voir un élu local, hein, un maire, et on le disait.
Qui avait eux l'obligation, hein, ouais, là encore légale, de mettre en place des systèmes de collecte, etc., et qui étaient démunis du point de vue technique. Comment on fait? Nous, on n'est pas des spécialistes de la question des déchets. Et les industriels sont arrivés en disant: nous, on sait.
Ouais.
On vous propose de gérer la collecte, le traitement, la gestion, pourquoi pas la valorisation des déchets. Et ce, en mettant en place des contrats de délégation de services publics sur parfois 15 ans, 20 ans, qui engagent des collectivités à, par exemple, des volumes de production de déchets sur le temps long. Ce qui veut dire
c'est
que...
C'est coûteux pour les communes, ça?
Bah, c'est impressionnant. Enfin, la taxe
de déléguer à un industriel du déchet toute la gestion des déchets.
La question qui se pose aujourd'hui, pour le dire autrement, c'est dans quelle mesure les collectivités peuvent reprendre la main sur la gestion des déchets. Et ça, je crois que c'est tout à fait possible. Il y a notamment une association à l'échelle européenne qui s'appelle Zero Waste Europe, qui développe ce programme des municipalités zéro déchet et qui SM, je crois, également dans le Sud.
Les municipalités avec les citoyens.
Absolument.
Ouais. Pour les villes du Sud, évidemment, le problème se pose de la même manière. Il y a aussi des propositions d'industriels de gestion des déchets qui vont voir les maires des villes, notamment en Afrique, en leur disant: on a la solution clé en main. C'est un problème compliqué technologiquement. Vous, en tant qu'élu local, vous ne pouvez pas vous en saisir tout seul, non, Clémentine Dardy?
Alors effectivement, quand on regarde sur le terrain, on connaît tous des grands éléphants blancs. Je pense par exemple en Indonésie, on s'est retrouvé avec 43 incinérateurs disséminés qui sont restés là, donc des grands équipements qui ne fonctionnent pas. Parce que quoi? Parce qu'avant tout, on a certainement, si on remonte le fil, des personnes qui sont proposées en disant: ben voilà, on a des solutions clés en main, sans savoir avant tout de quoi on parle. Parce que là, l'enjeu, c'est justement de reprendre langue avec les autorités, de leur dire que oui, c'est leur problème, oui, il faut s'en saisir, et il faut surtout savoir de quel type de déchet. Si on ne connaît pas le gisement, si on ne caractérise pas bien son déchet, bah après, toute la chaîne qui va pouvoir découler comme solution va peut-être être biaisée. Et donc, du coup, il y a les enjeux des déchets, il y a les enjeux de savoir quels acteurs, et on peut mettre des solutions en place très intéressantes, sans que ce soit nécessairement très coûteux, à bas prix, mais surtout qui s'adapte au contexte local. Je le dis, ça semble enfoncer des portes ouvertes.
Oui, vous me parlez acteurs, solutions, à quoi vous pensez concrètement?
Et bah, concrètement, on va pas mettre une Rolls-Royce, si j'ai tendance à dire ça, alors qu'on peut mettre une Mégane. Par exemple, dans des endroits où il y a des enjeux forts de développement économique local, parce que les jeunes, parce que les gens n'ont pas d'emploi, on peut mettre très bien en place des petites unités de tri de déchets qui vont intégrer des acteurs de l'informel dont on parlait, mais qui vont être consommatrices aussi en termes de main-d'œuvre. On n'a pas besoin d'avoir la dernière solution, dernier cri ultra mécanisé, qui va coûter très cher, qui suppose des formations, des compétences au niveau des entreprises locales, des services techniques municipaux qui n'existent pas. Et après, on se retrouve avec ce dont on parlait juste en amont, des équipements qui ne marchent pas et qui sont voués à l'échec et qui ont représenté des gouffres financiers pour les autorités locales.
Alors, on parle bien de la gestion des déchets ménagers, hein, où effectivement, il y a une grosse partie qui est compostable. Est-ce qu'il faudrait inventer, et c'est peut-être déjà le cas au Nord, des solutions frugales pour une meilleure gestion des déchets ? C'est-à-dire des solutions plus simples ?
Des solutions plus simples, oui. Comme on le dit souvent, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et que la première des solutions en matière de déchets, c'est là encore de ne pas en faire. Mais d'une certaine façon, faire des déchets, c'est aussi être en vie. Hein. Donc des solutions clés en main, des solutions toutes faites, je pense que c'est là encore une promesse un peu un vœu pieux. Les solutions, elles sont toujours locales, elles sont toujours bricolées, elles s'organisent, je pense, par le bas et pas par le haut. Donc penser une solution globale qui permettrait de résoudre ce problème, cet hypothétique problème des déchets, moi ça me semble être une...
Aujourd'hui, on voit surgir dans l'actualité, poussé par les ONG qui veulent communiquer là-dessus et faire en sorte que les citoyens prennent conscience dans les pays du Nord, avec ces fameuses bouteilles de plastique opaque non biodégradable, enfin non recyclable plutôt.
Oui, alors ça, là c'est encore la question de l'enjeu ou des facteurs économiques qui influent sur ces efforts pour améliorer les structures de recyclage et les chaînes de recyclage. Il y a des choix pragmatiques qui ont été faits, une bouteille opaque coûte moins cher à la production, permet des économies sur les frais de transport, on va dire, manipule moins de matière que les anciennes bouteilles. Et donc, de fait,
c'est l'argument des industriels pour qu'on ne les interdise pas.
C'est surtout qu'ils sont plus rapides. Enfin, c'est-à-dire que dans le sens où mettre en place une régulation sur l'usage, la question centrale du moment, c'est le sac plastique. Hein. Il a fallu près de 15 ans pour réussir à mettre en place un protocole à l'échelle européenne de régulation de l'usage des sacs plastiques. C'est même pas de l'interdiction qui est en jeu. Dans plein de pays du Sud, on a parlé tout à l'heure,
Ça y est, dans de nombreux pays sur le continent africain, les sacs plastiques sont interdits. Alors, c'est pas encore forcément respecté, mais avance.
Et là encore, c'est pas tous les sacs plastiques qui sont interdits, c'est simplement un certain type de sac plastique avec des caractéristiques précises. On parle de sacs très fins ou ultra fins et qui parfois créent des effets rebonds un peu surprenants la surproduction, le suremploi de sacs plastiques d'autres types, plus épais, plus résistants, donc censément réutilisables, mais qui ne le sont pas toujours.
Est-ce qu'aujourd'hui, Clémentine Dardy, il y a des villes qui se mobilisent, notamment sur le continent sud-américain, et qui peuvent servir de modèle à d'autres villes plus pauvres ailleurs? Je pense à la Colombie, je pense au Brésil.
Alors oui, bien sûr, on intervient avec l'AFD à Toledo, par exemple, qui est dans le sud du Brésil, dans l'état du Paraná, et qui a une approche très intéressante. On parlait de l'articulation entre les formels et les informels. Toute l'ambition du projet a été d'accompagner la structuration des informels en coopérative, qui s'occupe maintenant aujourd'hui de ramasser en porte-à-porte auprès des ménages et de trier les déchets. Et la dimension intéressante, c'est qu'on en parlait là aussi tout à l'heure, il y a dans les pays du Sud une matière organique énorme, plus de 50-60%, et là encore...
Des déchets alimentaires.
Oui, des déchets alimentaires. Je mange, j'ai des épluchures de pommes de terre, par exemple. Et bien, aujourd'hui, c'est effectivement une ressource. Et on peut, dans des terres très agro-industrielles comme l'est le Paraná, pouvoir s'en servir, récupérer. On réduit à la source les déchets et puis on s'en sert comme de la matière première, une richesse qui va amender les terrains fertiles aux alentours. Donc l'enjeu, le véritable enjeu, il est là. Il est réduisant à la source au maximum. Donc, il y a une économie, on vit, hein, effectivement. Donc, aujourd'hui, on n'a pas toutes les solutions pour pouvoir les réduire. C'est une véritable ambition. Mais réduisons à la source, mettons en place des solutions de tri, faisons du compost. En Afrique, par exemple, il y a le grand projet Afrique Compost, au Togo, à Madagascar, notamment, au Cameroun, qui est un véritable enjeu, qui te permet de travailler avec des ONG sur le compost. Mmh. On le fait à Porto Novo au Bénin, mettre en place un petit tri, parce qu'il y a des terres juste à côté agricoles, juste à côté des petits centres de tri, et ben voilà, on est en circuit court, et puis notre déchet sert d'engrais naturel pour les plantations agricoles.
Alors, il faut bien repréciser qu'on n'est pas du tout en train de culpabiliser les villes du Sud, parce que ces fameuses villes pauvres produisent beaucoup moins de déchets par habitant et par jour que des habitants d'une ville américaine. Hein, donc, mais d'autant plus, justement, les villes africaines pourraient sauter l'étape de ces gigantesques déchetteries, comme on a pu le voir dans les villes du Nord, et arriver directement au compostage plus rapidement, puisqu'il y a beaucoup moins de matières compliquées à recycler par habitant dans ces pays-là.
Inventer d'autres trajectoires de développement.
Exactement.
Sur la base peut-être d'une vigilance politique forte à l'endroit de cette articulation entre formel et informel.
Exactement.
Moi, j'insiste beaucoup sur
Donc, affaire à suivre, sujet à suivre. Merci à vous, hein, Clémentine Dardy de l'AFD et Baptiste Mont-Saint-Jean, à lire Homo Detritus, histoire de se poser les bonnes questions. C'est publié au Seuil. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Thomas Delpech, Hugo Violas, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, je vous propose de réécouter l'émission sur les entretiens d'embauche. À l'heure actuelle, décrocher un rendez-vous avec un recruteur, c'est déjà une victoire. Donc, il faut partir confiant, mais très bien préparé. Ne manquez pas les conseils d'une coach, Claude Destet, qui signe un guide simple et précis, 60 fiches, pour s'entraîner à l'entretien de recrutement dans toutes les situations, y compris lors d'entretiens à distance, de plus en plus pratiqués.